Soyez les bienvenus sur Fréquence Magique. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur Fréquence Magique, votre web radio en Haute-Vienne et sur fréquencemagique.com.
Chut, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Enfin du neuf à la radio.
Vous écoutez Fréquence Magique.
Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chut en écoute la télé, l'hebdo sur Fréquence Magique. Vous nous écoutez eh bien chaque lundi à 18h partout en France sur fréquencemagique.com. Pendant une heure, eh bien on va passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Et ça tombe bien tout de suite, voici le sommaire.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de lancer un appel au vote pour l'opération Votre plus beau marché sur TF1 dans le 13h. Et ça tombe bien puisque dans 3 semaines, nous allons recevoir les 3 communes qui ont été sélectionnées pour la Nouvelle-Aquitaine. On va commencer dans quelques instants avec Jean-Jacques de Peretti, le maire de Sarlat, retenu pour l'Aquitaine. Lundi prochain, ça sera Rémi Viroulot, l'adjoint au maire de Limoges pour le Limousin. Et puis pour le Poitou-Charentes, le 31 mai, Gérard Ponce de la mairie de Rochefort, adjoint au maire de Rochefort qui sera donc notre invité. On lance les votes déjà pour l'Aquitaine donc tout à l'heure. Et puis on va également dérouler nos coups de cœur télé cette semaine. Julie Debona l'affiche de cette nouvelle série intitulée Plan B ce soir sur TF1. Je vous promets un très bon moment avec cette série. Nous aurons le plaisir de recevoir aussi eh bien Sarah Mortensen pour Astrid et Raphaël. C'est le retour vendredi sur France 2. Et puis samedi on fêtera les 20 ans de la Starac et on sera avec une des gagnantes de la Starac, la Starac 5, Magali Vahe sera notre invité. Et puis vous le savez, cinéma réouvre mercredi. Nous allons fêter ça avec le directeur des cinémas CGR, Jocelyn Bouissy, qui sera notre invité. Et puis pour fêter ça aussi, retour des équipes de films dans Chut en écoute la télé avec justement l'équipe du film L'Étreinte avec Emmanuel Béard et réalisé par Ludovic Bergerie qui sera notre invité accompagné du comédien Vincent Dedienne. Vous l'avez compris, c'est une belle émission qui vous attend aujourd'hui. Alors on va tout de suite passer en revue, comme d'habitude, les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Et dans les audiences de la semaine dernière, on commence par lundi. Il y avait Meurtre au paradis sur France 2 qui arrive d'une courte tête en tête des audiences avec 4 284 000 téléspectateurs et 17,8% de part de marché. Juste après ces mentions particulières, bienvenue dans l'âge adulte sur TF1 avec 4 023 000 téléspectateurs. Marie au premier regard fait un beau score avec 3 244 000 téléspectateurs et 14,9% de part de marché. Mardi Tandem arrive en tête des audiences avec un très beau score, plus de 5 millions de téléspectateurs et 22,6% de part de marché. Lincoln sur TF1 est à la traîne avec seulement 3 308 000 téléspectateurs et 14,9% de part de marché. Le meilleur pâtissier professionnel dans sa moyenne avec 11,8% de part de marché, 2 454 000 téléspectateurs. Et déception pour France 2 et son documentaire 10 mai 81 changer la vie, seulement 1 540 000 téléspectateurs l'ont suivi et 6,8% du public. Un petit mot sur jeudi, l'énorme carton d'HPI qui continue avec ces 2 nouveaux épisodes que vous avez pu suivre. Vraiment, ça affole les audiences de TF1 comme rarement depuis 15 ans. Donc vraiment, bravo à la chaîne et bravo à la série également. Et toujours match serré entre L'Art du Crime et Koh-Lanta vendredi. Voilà ce qu'on peut dire déjà des audiences. Et tout de suite, on va lancer notre appel au vote pour votre plus beau marché.
Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, on va commencer nos appels au vote pour le concours du plus beau marché sur TF1. Vous savez que le concours a été lancé. On va faire un appel au vote avec nos 3 beaux marchés de Nouvelle-Aquitaine. Et on va commencer eh bien par justement la région Aquitaine qui est représentée par Sarlat, le marché de Sarlat. Et aujourd'hui, c'est Monsieur le maire, Jean-Jacques de Peretti, qui est notre invité. Et on commence avec vous, Monsieur le maire. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, qui est l'instigateur, racontez-moi, monsieur le maire, de cette inscription à ce concours du plus beau marché?
Ben, je crois que l'initiative vient surtout de nos services et tout particulièrement de nos placiers qui ont immédiatement identifié toute la dynamique qui pouvait se traduire par cette initiative et ils se sont engagés en sollicitant par la suite le service communication et petit à petit la greffe a pris le nombre de supporters pour Sarlat, bien sûr Sarlat n'a cessé de croître, mais ça a été un vrai travail d'équipe avec un soutien d'une stratégie qui a été mise en place par le service communication.
Alors il y a maintenant 15 jours, tout pile, que la ville de Sarlat est donc candidat officiel pour l'Aquitaine. La ferveur est intacte, ça y est, c'est parti, je suppose que tout le marché est aux couleurs du concours.
Oui, ben on est en train de mettre en place, bien sûr, dans le cadre des protocoles qui nous sont imposés, une dynamique sur la ville, mais aussi tout le travail qu'ont fait nos jeunes femmes de la communication, parce que c'est vraiment une équipe de 4 mousquetaires femmes jeunes qui sont très dynamiques. C'est l'utilisation des réseaux sociaux, des supports régionaux, mais aussi nationaux de tous ordres, même en langue anglaise, etc. Donc, je crois que le stade, ce second stade et ce stade le plus important, qui est au niveau national, je dirais, va devoir éclater et rayonner bien au-delà du simple spot du marché de Sarlat.
Alors, si Sarlat est connu évidemment pour son patrimoine historique et culturel absolument extraordinaire, ses balades en canoë, son festival de cinéma en novembre, là, eh bien, c'est une autre facette de Sarlat qu'on découvre avec ce marché, ces marchés de producteurs. Je suppose qu'on y retrouve aussi sur ce marché de Sarlat le célèbre foie gras, évidemment, hein, parce que quand on parle Sarlat, on parle aussi foie gras. On veut pas passer à côté.
Non, il y a bien sûr le foie gras, il y a la truffe, sur la période, il y a les champignons, les cèpes en particulier, les morilles, et il y a tout un tas de produits qui sont fabriqués, qui ont une origine locale, comme l'anchois, etc. Mais l'idée du marché de Sarlat, ce qui fait à mon sens son originalité, et aussi d'autres marchés ailleurs qui sont de très beaux marchés, mais c'est qu'il est dans le cœur de la ville, il est dans la cité médiévale, et la cité médiévale qui a bénéficié de la première opération, d'une des premières opérations, en tous les cas avec Orange, de la loi Malraux de 1962. Donc, c'est vraiment un marché de cœur de ville et en même temps, c'est le cœur de la ville. Et on aime, indépendamment des produits que l'on peut consommer, qui sont les fraises aujourd'hui sont merveilleuses en ce moment. Elles ont un goût qui nous emporte dans des rêves, dans des écritures proustiennes, etc. Ce sont des souvenirs parce que le goût des fraises a évolué tout au long des années qui sont écoulées. Donc il y a beaucoup de souvenirs, mais aussi c'est l'ambiance, c'est l'état d'esprit de la ville, c'est ces pierres qui sont plusieurs fois centenaires, qui ont une lisibilité chargée d'années. C'est ça qui fait qu'on est un peu ailleurs quand on est dans le marché de Sarlat.
Monsieur de Peretti, on va terminer comme ça. Votre plus beau marché.fr, c'est là qu'il faut aller voter. Qu'est-ce que vous avez envie de dire maintenant aux auditeurs pour qu'ils votent Sarlat?
Bah, j'ai envie de leur dire qu'ils votent pour Sarlat. D'abord qu'ils sont les bienvenus et que Sarlat, c'est un peu la vie, c'est l'histoire, c'est la relation, le lien social, la solidarité. Et surtout qu'ils n'oublient jamais que Sarlat, c'est la cité de la Boétie avec le discours de la servitude volontaire et tout l'humanisme qui s'en échappe et qui rayonne.
Votre plus beau marché.fr, c'est le site où il faut aller voter donc. Sarlat, merci beaucoup monsieur le maire d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et la semaine prochaine, nous partirons direction le Limousin avec Rémi Viroulot, adjoint au maire de Limoges. Et le 31 mai, nous lancerons les votes pour le Poitou-Charentes avec Gérard Ponce, adjoint au maire de Rochefort. Voilà pour être complet sur l'opération Votre plus beau marché que vous pouvez donc retrouver sur votreplusbeaumarché.fr. On va marquer une petite pause. On va revenir dans un instant avec nos coups de cœur télé de la semaine. Sarah Mortensen est déjà dans les starting blocks avec Julie Debona et Magali Vahe. Et enfin l'émission, c'est le cinéma qui sera à l'honneur avec Jocelyn Bouissy, le directeur des cinémas CGR, ainsi que l'équipe du film L'Étreinte, Ludovic Bergery et Vincent Dedienne, termineront l'émission avec nous. Alors, à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite.
Fréquence magique, la web radio.
Entre deux rivages, mais y a pas la mer. L'air d'une chanson. Sur ma peau un frisson de langue étrangère. Mon amour ne m'en veut pas si toujours je viens à toi.
Des fréquences magiques.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé pour votre nouvelle série Plan B que vous allez pouvoir découvrir ce soir sur TF1, qui n'a pas rêvé un jour de pouvoir retourner en arrière pour essayer de changer le futur. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans cette nouvelle série. Un brin fantastique avec Julie Debonnat qui est notre invitée. Bonjour Julie.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous, ça me fait super plaisir. Alors moi j'ai eu la chance de la voir, cette série, en avant-première franchement, mais cette série elle remplit un peu tous les fantasmes qu'on peut avoir aujourd'hui, de quand voilà il se passe quelque chose de grave dans notre vie. C'est ce qu'on va suivre à travers le parcours de l'animatrice de radio, ça me parle encore
en plus,
évidemment, hein, t'imagines ?
Tout à fait.
Et ce parcours évidemment, on va dire, et ce drame qui arrive à cette animatrice où sa fille se suicide après 6 mois un peu de vie cachée, et donc voilà, elle va se retrouver à pouvoir avoir la chance de retourner en arrière et d'essayer de changer les choses. Alors vous verrez évidemment pendant 6 épisodes que rien ne se passera forcément toujours comme prévu. Mais Julie, qu'est-ce qui t'a attiré en premier déjà dans cette histoire ?
Le pitch, pour moi, c'est un pouvoir émotionnel, une puissance émotionnelle incroyable. Mon imaginaire a tout de suite travaillé. Je me suis dit, waouh, si ça va aussi loin que mon imaginaire, eh ben, on est mal barré. Et je me suis dit, waouh, ouais, non, on tient une pépite. Ça joue avec l'inconscient collectif. Tout le monde peut se projeter dans, comme tu viens de dire, de revenir en arrière pour changer un élément du passé, un élément, en tout cas, qu'on a mal vécu. Et qu'est-ce que ça va déclencher? Est-ce que ça change les choses ou pas? Et voilà, quand on va faire un voyage incroyable avec un personnage, j'ai pas envie de vous spoiler, mais un voyage introspectif, psychanalytique, et en même temps c'est une enquête dans le passé et savoir qu'est-ce qui a perturbé cette gamine pour qu'elle en arrive là et est-ce qu'on peut changer le cours des choses.
Alors Kim Higelin qui joue ta fille est absolument incroyable, mais déjà avant de parler de Kim, comment tu t'es préparée toi à ce rôle d'animatrice radio puisque tu joues le rôle d'une animatrice radio qui fête ses 10 ans à la tête d'un morning. Alors évidemment tous les animateurs radio savent les sacrifices que cela peut demander justement d'animer un morning et surtout pendant 10 ans et alors faut se lever le matin. Mais toi, comment tu as vécu cette préparation?
Alors moi, je me suis amusée. J'ai demandé à Europe 1, donc à Philippe Vandel, et il m'a proposé un stage avec Hélène Manarino en maîtresse de stage.
Hey.
Il y a Anissa Adadi aussi qui m'a accompagnée sur ma voix de radio, qui m'a aidée à trouver ma voix de radio. Donc c'était assez dingue. J'avais des maîtres de stage géniaux. J'ai fait une semaine là-bas. J'ai appris à comprendre ce que ça voulait vraiment dire être animateur radio. Et après, j'ai aussi papoté avec Alexandra Sublet qui m'a expliqué comment la matinale pouvait un peu, comme tu dis, les sacrifices que font les animateurs, c'est-à-dire que ils se lèvent tellement tôt, avant tout le monde, ils n'ont plus vraiment de vie privée, donc c'est vrai que là-dedans, élever des enfants, c'est sport, quoi. Et j'ai rencontré plein d'animatrices qui ont des enfants et tout se passe bien, attention, hein. C'est une animatrice radio qui ça arrive ça parce qu'elle a aussi fait plein de choses autres dans sa vie.
Et on plonge aussi un peu dans les arcanes du coup des coulisses d'une matinale. Alors l'animatrice elle a un petit crush pour le Real, Claire Borotra et Cécile Reboa qui se punch voilà, c'est vraiment super sympa. On y croit vraiment hein, en tout cas.
Ah bah tant mieux.
C'est une matinale que j'ai envie d'écouter moi.
Ah bah sympa, écoute. Il y a aussi Sophia Aram aussi qui m'a donné des conseils pour la chroniqueuse parce qu'après elle va évoluer, elle a aussi été chroniqueuse et elle va être chroniqueuse, donc c'est un autre exercice d'écrire ses propres chroniques en tant que féministe et tout, et donc j'ai bien aimé les conseils de Sophia et tout, c'était génial, c'était passionnant.
Oui, parce que c'est vrai que Florence n'est pas qu'une animatrice radio, c'est aussi une femme très engagée pour les autres et très tournée vers les autres, où elle va s'apercevoir justement au moment de ce retour dans le passé, mais qu'elle va essayer de faire un peu plus attention à elle et à sa fille justement parce qu'elle donne beaucoup aux autres.
Oui, alors ça c'est vrai que c'est pas manichéen comme ça, c'est-à-dire que la vraie voilà, c'est une femme. Moi j'aime bien la raconter autrement, j'aime bien dire que c'est une femme parfaite, une femme qui a réussi, qui est complètement accomplie, mais irrésistiblement parfaite et insupportablement parfaite. C'est-à-dire que elle a tout réussi, elle est des trois femmes à la fois, elle a un amant plus jeune qu'elle, elle a même réussi son divorce parce que son ex-mari habite à côté, la maison à côté d'elle, comme son monde va s'écrouler au suicide de sa fille. Ce qui est touchant chez elle, c'est qu'elle va se remettre en cause tout de suite, elle va s'accuser tout de suite, prendre la culpabilité avec elle tout de suite. Et elle va essayer de se dire, mais qu'est-ce qui a fait que ma fille, j'ai raté ça, et qu'est-ce qui a fait qu'elle était malheureuse?
Voilà. Hey, on va le découvrir, en tout cas. Beaucoup de belles scènes avec Kim Higelin. Est-ce qu'il y en a une que tu retiens particulièrement?
Il y a vraiment une scène qui est absolument géniale dans le premier épisode où je l'amène voir un psy. Et je suis mais atroce avec elle. Et on s'est éclaté Kim et moi à jouer ça. Je suis la mère contrôlante et qui comprend pas pourquoi cette gamine se comporte comme ça, quoi. C'est vraiment la mère d'ado, quoi. Et donc là, on s'est régalé à faire ça et c'était irrésistiblement insupportable de ma part et on se marrait comme des baleines entre les prises.
C'est fermé, la fin, ou est-ce que on peut peut-être espérer voir une suite, un plan B saison 2 ou pas?
Alors, pas de suite possible. Du tout, parce que la série va s'intituler pas en plan B, mais pour un nouveau personnage si ça continue.
Ah
si
voilà.
Ça marche, je n'en sais
c'est
pas
bien
du tout.
Ce que je pensais, oui.
Voilà, c'est l'intérêt en fait de la série. Tu vois, moi ça y est, moi quand tu verras la fin de la série, tu as compris que j'ai fait tout ce que je pouvais pour sauver ma fille, qu'il vaut mieux pas qu'on continue la série, quoi. Tu vois, c'est fini. Par contre, donc ce sera sûrement un autre personnage qui sera mis à mal et qui voudra revenir en arrière pour changer son destin. Par contre, notre série à nous est une fin pas totalement fermée. C'est ça qui est joli, c'est que c'est ouvert, c'est que chacun se fait sa propre interprétation. Et ça, j'aime beaucoup ça dans les séries, parce que c'est pas donneur de leçons, c'est pas manichéen, on sait pas trop où était la clé pour la sauver ou pas. Est-ce qu'il y a vraiment une clé? Ouais, la fin est vachement spirituelle et très ouverte. Et ça me plaît beaucoup, beaucoup.
Et on peut imaginer que tu fasses la passation à un nouveau personnage, par exemple, que ça soit toi qui vienne un peu comme le personnage qui est venu, toi, te donner son plan B.
C'est Katharina Merino qui m'est... Ouais.
Et on peut imaginer effectivement ce clin d'œil, ça serait chouette en tout cas. D'autres projets?
Oui, avec plaisir.
Julie, est-ce que tu as d'autres projets pour cette année?
Oui,
Bazar
tout...
de la Charité 2, ça avance? Comment ça se passe?
Alors, ça s'appelle Les Combattantes.
Ouais.
Et c'est donc, on reprend le même réal, la même productrice et les mêmes actrices. Et on nous met pendant l'époque de la Première Guerre mondiale, donc ce ne sont pas les mêmes personnages, c'est trois nouveaux personnages, Ouais. Pendant l'époque de la Première Guerre mondiale, on rajoute même un nouveau personnage qui va être interprété par Sophia Essaïdi.
Ouais.
Et on est toutes les quatre. C'est vraiment le rôle des femmes pendant la Première Guerre mondiale. Vraiment, pendant que les hommes sont au front, qu'est-ce qu'on fait les femmes pour se battre? Il y a deux films que j'ai tournés qui ne sont pas encore diffusés, donc qui seront diffusés je ne sais pas quand, bientôt. Il y a Je l'aime à mentir, qui est une comédie pour M6. Donc, beaucoup de plaisir à jouer une comédie dans tous ces drames. Et j'ai aussi un unitaire pour France 2 que j'ai fait, qui s'appelle Mise à nu, qui est sur le revenge porn. J'ai un super accent, t'as remarqué.
Yes.
Donc, revenge porn, c'est le phénomène un peu qui explose de société,
ouais.
Où on se fait filmer par son amoureux dans les ébats sexuels. Et quand tu quittes ou pour se venger, le mec balance ses vidéos sexuelles à tous tes proches et voir sur les plateformes et tu deviens une actrice porno à ton insu, quoi.
Super. Bon, on va découvrir ça. C'est un sujet de société, c'est vrai.
Ouais. Il faut en parler malheureusement parce
exactement.
Que ça, il faut arrêter l'hémorragie, quoi.
Exactement. Bon, Julie, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, on va découvrir dans cette série
merci,
géniale
Alain.
Que je vous conseille
bon,
vraiment
merci.
Ce soir à 21h05 sur TF1. Ne la ratez pas. Les deux premiers épisodes de Plan B s'offrent à vous et vous allez passer une super soirée, je vous le promets.
Eh oui, préparez-vous à un tsunami d'amour. C'est un bouleversement. C'est très intime comme série. Merci Alain d'en parler en tout cas.
Allez, on se quitte tout de suite avec la bande-annonce. Et puis, au plaisir. Hein, on a déjà fait une émission en direct ensemble. Eh bien, écoute, la prochaine, on la co-animera. Hein.
Ah, avec plaisir.
Eh bien oui, maintenant que tu fais de la radio. Hein. Je t'embrasse. À bientôt.
Merci Alain.
J'avais perçu quelque chose des intentions suicidaires de Lou.
Lou, réveille-toi.
On n'a rien vu de ce qui arrive à notre fille. Rien.
Ce que j'ai à vous dire, ça peut tout changer pour vous. Il y a une agence, Plan B, qui permet de retourner dans le passé et de le changer. Vous pouvez sauver votre fille.
Ah non, t'es chelou.
Oh mon âme. Comment faire pour qu'elle me parle?
Mais putain, mais lâche-moi, mais putain!
Il faut pas la laisser seule.
Qu'est-ce qui lui arrive?
Je crève.
Ouvre cette porte!
Je sais ce qui va se passer.
Inédit, Plan B, votre nouvelle série, bientôt sur TF1.
Et coup de cœur télé consacré à Astrid et Raphaël qui fait son grand retour vendredi soir sur France 2. Et quel bonheur de retrouver l'interprète d'Astrid avec nous, Sarah Mortensen. Bonjour ma chère Sarah.
Bonjour, merci de m'avoir invité encore. Merci pour votre fidélité.
Ah mais tu sais qu'on t'aime, Sarah. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? On peut pas te lâcher, surtout quand il y a un retour d'une série qu'on aime comme ça et qu'on aime retrouver après une saison, un carton, un épisode pilote qui avait fait un carton aussi. Quel bonheur de vous retrouver toutes les deux pour 8 nouvelles enquêtes.
Ah ben moi, remettre les chaussures d'Astrid, c'est toujours et un bonheur et un honneur. Et à la fois, je fais ça avec beaucoup d'humilité parce que je veux surtout blesser et trahir personne mais bon c'est un bonheur incroyable.
Tu es quasiment méconnaissable moi qui te connais bien et voilà on t'a vu dans plein de rôles évidemment que ça soit dans Plus belle la vie ou Les mystères du bois galant dont d'ailleurs une suite on va en parler d'ici quelques instants a été tournée mais ouais. C'est quasiment incroyable ce jeu là que tu as avec ce personnage d'Astrid se mettre dedans comme ça pendant 4 mois de tournage ça doit être épuisant.
Oui, c'est une concentration qui est autre. En fait, je découvre autre chose, d'autres sens. Je fonctionne pas du tout pareil quand je tourne Astrid que quand je tourne un autre personnage. Moi, je dis toujours que mes personnages sont mes colocs. C'est vrai qu'Astrid, elle prend une très grosse partie de la coloc, mais je l'accueille avec bonheur. Et forcément, oui, au bout de 4 mois, qui se transforme un peu en 4 mois et demi, 5 mois entre la prépa, la pause entre les deux blocs, etc. C'est vrai que je ressors rincée, mais heureuse.
C'est bien.
Voilà. Oui, non, c'est formidable, c'est incroyable.
Comment pour toi expliquer ce succès quand même phénoménal de la saison 1, ce duo avec Lola, que ça matche tellement bien aussi. C'est quoi pour toi cette recette?
Je pense que il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Déjà, c'est deux femmes à l'affiche. Je crois qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus friands en fait d'héroïnes. Ensuite, je pense que à la fois physiquement et psychologiquement, j'allais dire. Astrid et Raphaël représentent toutes les femmes. C'est deux traits particulières. À la fois physiquement, on est vraiment l'opposé l'une de l'autre. Et je pense que toutes les femmes peuvent se reconnaître dans l'une ou dans l'autre, ou peut aussi un peu dans les deux. Et qu'à la fois, c'est un duo qui est très atypique puisqu'il y a Astrid qui est neurodifférente et que les gens aujourd'hui s'ouvrent enfin à la neurodifférence et à la différence tout court. Et je pense que cette alchimie qu'il y a entre Astrid et Raphaël est quelque chose qui touche les gens et qui vient les surprendre dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et évidemment, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire qu'on a quand même des enquêtes brillamment écrites par Alexandre de Seguin et Laurent Burtin. Et voilà, je trouve que les réals aussi font un super travail. Cette année, on a eu Frédéric Berthe et Éric Leroux. Et voilà, il y a tous ces ingrédients-là, mais je pense que aujourd'hui, la différence attire en fait les gens et les touche particulièrement.
Ouais, je pense aussi. Alors, jugez plutôt, chers auditeurs, Émilie Dequesne, Pierre Palman, Mathieu Delarive, Sophie Duez, Hubert Delattre, Alison Paradis, Tom Novembre, Avi Marciano, Louise Joseph, Gérard Majax, Richard Gottener. C'est un panel des guests qu'on va retrouver pendant cette saison. C'est hallucinant d'accueillir autant de monde en plus à vos côtés.
Ben c'est formidable parce que les gens ont envie de venir en fait sur cette série. Richard Gottener, qui était venu sur la saison 1, avait été tellement bouleversant de gentillesse et de concentration et son personnage est tellement dingue qu'on a eu envie de le faire revenir. C'est fou en fait de se retrouver en fait dans la position de les gens ont envie de venir tourner avec vous. C'est assez magique.
Alors, le premier épisode qu'on va voir vendredi, on va suivre l'histoire d'un avocat qui est tué d'un coup de feu devant 12 témoins qui ne voient rien et qui n'ont rien entendu. Mais attention, le sixième sens d'Astrid va révéler évidemment tout son talent.
Oui, c'est ça qui est intéressant avec Astrid, c'est que il y a une phrase d'ailleurs, une réplique dans cette saison 2 qui est que les neurotypiques, quand ils regardent un tableau, vont voir un paysage, un ensemble, alors que les neurodifférents ou les personnes qui font partie du spectre autistique vont plus voir des taches de couleurs et en fait les détails. Et c'est ça qui fait que ça matche si bien entre Astrid et Raphaël, c'est qu'il y en a une qui voit l'ensemble et l'autre qui voit le détail. Et du coup, l'une sans l'autre ne fonctionne pas de la même manière, il n'y a pas la même efficacité chacune de leur côté que quand elles sont ensemble.
Et on va voir que Astrid, c'est même un peu d'humour cette saison.
Bah oui, Astrid, c'était l'humour neurotypique. Astrid sourd, Astrid se surprend. Astrid, elle démarre une nouvelle vie parce que son tuteur légal, Gaillard, est mort en saison 1. Et donc, elle se retrouve à la fin de la saison 1 majeure et civilement responsable. Donc, elle se retrouve indépendante, ce qui ne lui est jamais arrivé de toute sa vie. Forcément, les repères sont bouleversés et changent. Et elle va s'attacher à... Son nouveau repère va être un électron libre qui est donc Raphaël, qui est assez paradoxal pour Astrid, qui préfère quelque chose de carré et de régulier. C'est ce nouveau repère-là qui l'amène et donc elle s'essaye à plein de choses. Souvent, les autistes ont dit que « Ah bon, à toi t'es autiste, ça se voit pas ». Bah en fait, c'est une phrase qui ne veut rien dire. Hein. Mais souvent, les autistes, en fait, mettent comme des masques en fait pour imiter les neurotypiques, se fondre dans la masse neurotypique. Voilà, c'est ce qu'Astrid va essayer de faire un petit peu au fur et à mesure. Assez maladroitement au début, hein, parce que faut quand même lui concéder que jusque-là, elle était avec son père ou dans le sous-sol de la documentation criminelle et qu'elle n'avait pas beaucoup d'interactions sociales. Donc là, voilà. Mais oui, c'est rigolo.
Je résumerai cette saison en disant que c'est la saison de l'émancipation pour Astrid.
Oui, c'est vrai.
Bon, tu viens de terminer le tournage en guest d'un épisode de Tropique Criminel en Martinique. Tu as tourné aussi la suite des Mystères du Bois Galant qui va s'intituler Les Mystères de l'école de gendarmerie du côté de Rochefort dans notre région aussi. Donc on va te voir pas mal à l'antenne dans les mois qui viennent, en tout cas pour notre plus grand plaisir.
Bah écoutez, oui, j'espère. Sinon, je suis désolée à l'avance. là déjà, vendredi dernier, j'étais...
Sur l'art du crime.
Pour l'art du crime, voilà. Et là, donc j'ai cinq vendredis de suite sur France 2 avec Sarah Mortensen. Donc voilà, écoutez, mes condoléances à ceux qui ne m'aiment pas. et puis bonheur à ceux qui ont envie de regarder. On me propose tellement des rôles incroyables. Le rôle de la danseuse au Moulin Rouge, c'est quand même une chance incroyable de pouvoir revêtir ce costume, de danser dans ce lieu mythique, d'être parmi les vraies danseuses du Moulin Rouge, qui d'ailleurs commencent un peu à trouver le temps long, hein, parce qu'elles ont été fermées au premier confinement. Elles n'ont jamais rouvert depuis. Donc ça, c'est terrible. Et voilà. Et puis, dans Tropique Criminelle, écoutez, j'allais dire l'appel de la Martinique. Non, c'est Denis Thibault qui m'a appelé et qui m'a proposé le rôle qui est le réalisateur. On avait travaillé ensemble sur Le Bel de la Vie très brièvement et on s'était dit on retravaillera ensemble. C'est donc chose faite. Et je dois dire que l'accueil de Sonia Roland et Béatrice de la Boulay est si délicieux qu'on a envie d'y passer notre vie là-bas. Et puis, grande chance à nous avec Olivier Citruc, les Mystères du Bois Galant ayant très très bien fonctionné. On a eu la chance de faire une exception à la règle de la collection et de faire un 2.
Bon, Sarah, merci d'avoir été avec nous en tout cas. Et puis si vous voulez revoir l'épisode L'Art du Crime qui est passé vendredi avec Sarah, vous pouvez aller sur francetv.fr évidemment. Et puis on te retrouve dans Astrid et Raphaël donc vendredi pour les deux premiers épisodes de cette deuxième saison inédite. À bientôt Sarah.
Voilà, et donc malgré la terrasse, malgré le couvre-feu à 21h et malgré le week-end de la Pentecôte, comme vous aurez vu des coups le 19 et le 20. Le 21, évidemment, vous serez sagement à la maison devant vos postes.
Exactement, parce que 21h, ça sera l'heure du couvre-feu. Donc, on sera à la maison pour regarder Astrid et Raphaël. Voilà, c'est bien
voilà.
dit. Allez, à bientôt, Sarah. Tout de suite, la bande-annonce.
À très vite, merci.
Bonjour, Astrid.
Bonjour, Raphaël.
Alors, vous avez déjà fait la connaissance du successeur de M. Gaillard ?
Il n'a pas été nommé. On ne sait pas encore de qui il s'agira. Vous êtes en retard, il ne faut pas être en retard. Dans votre message, vous avez dit « Je passe vous prendre dans 5 minutes ». Et c'était il y a 17 minutes.
Je suis désolée. Je sais très bien que vous avez du mal avec les imprévus en plus.
Ce n'est pas vraiment un imprévu.
Comment ça ?
J'ai toujours classé les événements de ma vie en plusieurs catégories. Il y a les événements prévisibles, comme quand je viens travailler à la documentation criminelle, par exemple. Et puis, il y a les imprévus. Ces derniers se scindent eux-mêmes en plusieurs catégories.
Ah oui ?
Oui.
Lesquels ?
Il y a les imprévus prévisibles. Et si je dois me rendre à la poste, par exemple, il se peut qu'il y ait la queue.
D'accord. Et les imprévus imprévisibles ?
Si la poste est fermée, pour cause exceptionnelle. Une panne informatique, par exemple.
Donc moi qui arrive en retard, c'est un imprévu prévisible ?
Voilà. C'est si vous étiez à l'heure qu'il s'agirait d'un imprévu imprévisible.
Eh mais c'est une blague, ça ?
Oui. J'ai fait une blague, Raphaël.
Mais c'est très drôle.
Et coup de cœur télé consacré aux 20 ans de la Star Academy qui vont être fêtés samedi sur TF1 avec un documentaire inédit qui va retracer les parcours des chanteurs qui marquent aujourd'hui le paysage musical. Alors à travers évidemment Jennifer, Élodie Frégé, Sophia Issaidi qui fait une carrière magnifique aussi. Et bien une autre chanteuse qui a été la gagnante de la saison 5, c'est Magali Vahé qui est notre invitée pour en parler et que vous retrouverez aussi dans ce documentaire samedi. Bonjour Magali.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Magali, passer derrière Grégory Lemarchal, ça a dû être peut-être la chose la plus difficile qui a dû se passer à cette époque-là, puisque vous avez été la gagnante de la Starac 5.
Alors, difficile, oui, parce que le niveau était...
Et oui.
Voilà, était très, 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 très élevé. Et en même temps, un honneur, parce que du coup, ça m'a permis d'avoir aussi des conseils de sa part, d'avoir son ressenti par rapport à son expérience. Donc, moi, j'ai envie de garder que le positif. Et vraiment, voilà, ça a été un honneur, du coup, de pouvoir le côtoyer, de pouvoir chanter avec lui.
Que de beaux souvenirs.
Ouais, vraiment des bons souvenirs. Malheureusement, du peu de souvenirs que j'ai, mais... De ce que j'ai, ce ne sont que des bons souvenirs avec Greg.
Bon, 2005, on revient en arrière, il y a 16 ans, vous gagnez la Star Academy. Vous vous rappellerez, je suppose, à jamais de ce moment où on est face à face avec l'autre finaliste. Et puis on se regarde et on se dit, voilà, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là, dans les triples?
Alors moi, on n'était pas face à face avec Jérémy, il me tenait dans ses bras. Et moi, j'étais pas là en fait.
J'étais absente.
Moi, ma finale, c'était très bizarre. Ah oui, mais j'étais totalement absente. Pour vous donner un exemple, c'est que tout le monde me disait « Oh, mais c'était long, mais on n'en pouvait plus, et Nico s'y parlait. »
C'est vrai.
Mais alors moi, le petit laïus qu'il a dit sur moi et Jérémy, je ne m'en souvenais même pas. Vraiment, c'est comme si mon corps était là, mais pas mon esprit. Comme un appel d'hypnose, quoi. C'était très, très bizarre. Moi, c'est passé en une fraction de seconde, quoi. Je me suis réveillée quand il a dit le Magali. Et même Jérémy, après, juste après, me parle à l'oreille et je ne m'en souviens pas. J'étais dans les vagues totales, quoi. C'était très bizarre.
Vous avez conscience aujourd'hui, Magali, d'avoir fait partie d'un des plus gros shows télé, d'une émission culte qui fête ses 20 ans, cette année pour le coup. Mais est-ce que vous en avez conscience maintenant, aujourd'hui, avec le recul et en plus de l'avoir gagné? Oui. Ça doit être une sacrée fierté.
16 ans après, oui, je m'en rends compte. Oui, quand même. Et déjà à l'époque, hein, voilà, il m'a fallu quelques jours pour comprendre ce qui se passait, mais... Oui, enfin, c'est pour ça que pour moi, ça me paraissait improbable à l'époque. Enfin, ça a été le plus beau cadeau que le public puisse me faire. C'était vraiment, vraiment magique. Et oui, toute ma vie, je resterai fière d'avoir fait cette émission, fière d'avoir entre guillemets fait partie de l'édifice. Hein, c'est un peu ça.
Mais oui.
Et voilà, et d'avoir marqué un peu l'histoire de la télé par la Starac, quoi. Donc c'est oui, c'est une grande fierté.
Magali, après la Star Academy, il s'est passé plein de choses.
Et ça continue
aujourd'hui. Vous continuez à chanter. Il y a une tournée d'été qui se prépare. Il y a un nouveau single début juin. Donc aujourd'hui, ça a quand même ouvert des portes, malgré tout.
Il m'a fallu du temps. Déjà pour mûrir, en fait. Je pense que voilà, le tourbillon a été tellement pris de plein fouet que On ne sait pas trop comment réagir, on ne sait pas trop comment on doit être aussi, on ne sait pas. Enfin, 18 ans, j'étais un peu paumée, quoi. C'était et il m'a fallu beaucoup de temps, voilà, pour digérer tout ça et me poser et me dire, écoute, de toute façon, toi, ton but c'est pas de passer à la télé, ton but c'est de chanter, c'est d'être chanteuse. Ça, et c'est mon rêve depuis que je suis gamine. Hein. J'ai voulu être chanteuse, j'avais 7-8 ans.
Hein, là, ça se sentait, hein.
C'est pas né, tiens, je vais faire un CRS pour être chanteuse. Non, non, c'était, voilà. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire par passion. Et puis, voilà, aujourd'hui, j'ai la chance, de ressortir des singles, de ressortir un EP qui est en préparation, de tourner dans un film, enfin, d'avoir tourné dans un film qui va sortir à la fin de l'année. J'ai cette chance et je prends, voilà, toutes ces ondes positives pour continuer à avancer, continuer à me construire. Et puis, j'espère encore avoir de beaux projets à l'avenir. Je reste fidèle aussi au public, voilà, qui me suit depuis 16 ans maintenant, qui est toujours là et
c'est ça qui est incroyable. Chose, voilà. C'est que le public s'est pris d'affection pour vous il y a 16 ans et c'est ce même public.
Mais je me suis pris d'affection pour lui aussi.
Mais oui, il est toujours là. C'est ça qui est assez dingue, c'est que comme quoi le public est fidèle. Hein.
Le public est fidèle, oui, voilà. C'est vrai que des fois on peut se poser des questions du coup sur les ventes d'albums, de singles, mais forcément n'ayant pas de promo nationale comme beaucoup d'artistes ont. Bah, tout le monde n'est pas au courant, hein. Mais voilà, moi, je suis contente des retombées que le public peut avoir de mes projets. Moi, je sais que voilà, mes singles, mes clips, tout est super bien accueilli par mon public. Il y a même des gens qui me suivaient pas spécialement, qui du coup arrivent en cours de route. Donc voilà, je suis vraiment contente de ce qui se passe, de tous ces projets, voilà, qui arrivent, que j'espère bien faire, voilà.
Bon, Magali, on se redonne rendez-vous début juin pour justement nous présenter ce nouveau single, probablement le 7 juin justement, s'il est sorti, voilà, on en reparlera. Ça sera l'occasion de reparler ensemble aussi de la comédie, parce qu'on vous a vu dans Dreams, pour le coup, il y a quelques années. Et puis là, c'est un film qui a été tourné du côté de Blois en début d'année, qui sortira fin d'année. Vous nous en reparlerez en même temps, justement.
J'espère avoir plus d'informations. Donc voilà, logiquement, la sortie est en fin d'année. Bon. Je suis très enthousiaste de tous ces projets. Donc je suis ravie de pouvoir en parler et de pouvoir le partager avec vous et le public. Ce sera avec grand plaisir.
Eh bien, le rendez-vous est pris. On se redonne rendez-vous début juin pour nous présenter ce nouveau single. Magali, merci d'avoir été avec nous. Les 20 ans d'Astarac, c'est donc samedi à 21h05 sur TF1. Ça va nous rappeler des souvenirs. Ça va être génial cette soirée. Merci beaucoup, Magali. À bientôt.
Merci. Au revoir.
Il y a 20 ans,
j'ai participé à une expérience qui m'a changé à tout jamais.
Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir là où tout a commencé. Là où chaque vendredi,
nous produisions devant des millions de téléspectateurs.
C'était le plus gros prime au monde.
C'était une sacrée aventure.
On a vécu un truc de fou.
C'était surréaliste.
Les 20 ans de la Starac, le doc événement, bientôt sur TF1.
Et dans un instant, eh bien, nous allons consacrer la dernière partie de l'émission à la réouverture des cinémas avec Jocelyn Bouissy, le directeur des cinémas CGR en France. Et puis notre première spéciale ciné de cette réouverture, notre spéciale L'Étreinte, avec le réalisateur Ludovic Bergerie, Vincent Dedienne qui sont nos invités. Alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite.
Vous écoutez Fréquence Magique.
Fréquence Magique, notre force, c'est vous.
Elle ne passait que l'été, comme le vent, elle faisait tourner mon monde. Autour d'elle, dans la ronde, de ses cheveux, couleur de blé, même le soleil ne pouvait se détourner d'elle une seconde. Auprès de ma blonde, souvenir d'un temps où bien des sentiments prenaient le pas sur notre monde. Auprès de ma blonde, quelques jours durant, les heures se comptaient en secondes. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta, ta. Oh, 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 auprès de ma blonde. Ta 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 ta, ta. Comme tant d'autres, j'ai beau souhaiter la tenir plus d'un été auprès de moi, que l'automne ne me la prenne pas. Et pour un seul de ses baisers, à bien des jeux, je me suis brûlé. Comme allumer ma première blonde, auprès de ma blonde, souvenir d'un. des sentiments. Redis le pas sur notre monde auprès de ma blonde. Quelques jours durant, les heures se comptaient en secondes. Ta la ta ta ta. Ta la ta ta ta. Ta la ta ta ta. Oh oh oh, auprès de ma blonde. Ta la ta ta ta. Ta la ta ta ta. Ma blonde, elle ne passait que l'été. Comme le vent, elle nous soufflait qu'elle resterait une vagabonde, que seul son nom résisterait en souvenir inavoué. Dans mille têtes d'hommes à la ronde, ta la ta ta ta. Oh oh oh, auprès de ma blonde, ta la ta ta ta. Oui, les heures se comptaient en secondes. Oh oh oh, auprès de ma blonde. Ta la ta ta ta. Oui, les heures se comptaient en secondes. Ta la ta ta ta. Ta la ta ta ta. Ta la ta ta ta. Oh oh oh, auprès de ma blonde. Ta la ta ta ta. Ta la ta ta ta. Ta la ta ta ta. Oh oh oh, auprès de ma blonde.
Fréquence magique.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et on va parler évidemment de la réouverture des cinémas. Ça y est, enfin, ça réouvre. Et justement, nous avons le directeur des cinémas CGR qui est avec nous, Jocelyn Bouissy. Bonjour Jocelyn.
Bonjour.
Enfin, j'oserais dire.
Eh oui, enfin. Ça fait, on l'a dit quelques fois déjà, enfin, et puis à chaque fois, ce qu'on appelle du stop and go.
C'est ça.
Pour une fois, voilà, dans 48 heures, on y est. On peut se dire que ça y est, ça va plus s'arrêter. Maintenant, on est parti. Et il n'y a aucune raison. On est tous en ordre de bataille depuis l'annonce du gouvernement. Et on y croit à fond. Et puis voilà, on a du film un petit peu. On a, voilà, il y a un protocole sanitaire avéré. On y va à fond. Enfin, on est tous heureux. Voilà, tout le monde, que ce soit tous les employés du groupe CGR, dans tous les cinémas de France et de Navarre. On est heureux. On est heureux aujourd'hui.
Alors, dans quelles conditions, justement, ça va réouvrir mercredi déjà, dans deux jours, puisque là, on est déjà sur une première ouverture. Alors, c'est à 35% de jauge, mais c'est par salle. Alors, on spécifie parce qu'il y a beaucoup de... On sait jamais trop, c'est par cinéma, par salle et tout. Là, c'est vraiment par salle.
Exactement. C'est 35% la jauge. Alors, en gros, ça a été calculé, vous savez, ce qu'a dit le Premier ministre, ou Roselyne Bachelot. C'est en gros un fauteuil et deux places libres, sachant que vous avez le droit quand même d'être en couple, en groupe, maximum 6. Seulement cette jauge, seulement pour 3 semaines. Heureusement, on est content de réouvrir, mais il n'aurait pas fallu que ça dure des mois, sinon il n'y avait pas d'intérêt.
Sur cette première étape, on a un couvre-feu à 21h. Est-ce qu'il va y avoir séances à 20h par exemple, et va être une dérogation du couvre-feu, on va pouvoir rentrer plus tard, ou est-ce que vous êtes condamné à faire vos dernières séances à 18h pendant ces 3 premières semaines?
Alors, vous savez, à 2 jours de l'ouverture, on sait à peu près, il n'y aura pas de modification. On a tenté ces demandes de dérogation, est-ce qu'on appelle l'eurodatage, avec le billet de cinéma pour faire foi de la dernière séance. Non, on a calculé de manière à ce que les films terminent, en fonction de leur durée, à 20h50 au plus tard. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est comme ça. On n'a pas pu avoir la dérogation. Encore une fois, c'est que 3 semaines. C'est comme la jauge. On remodifie encore un objet.
Donc 9 juin, deuxième étape. Là, jauge à 65%, couvre-feu à 23h. Donc on va pouvoir enfin reprendre les séances de 20h.
C'est ça, on recommande. Alors évidemment, rebelote, il n'y aura pas de 22h. Mais voyez, on progresse petit à petit. Donc 65% de jauge, même protocole, pareil, calculé informatiquement par rapport à réservation en caisse ou click and collect ou internet. Et dernière séance, 23h, on fait encore la même chose que lorsque c'était à 21h, on calcule pour que le film finisse à 22h50, ce qui permet quand même de faire même plusieurs séances étalées pour éviter d'ailleurs trop de croisements de personnes dans le hall. On fera certainement des séances à 19, 20, 21, 21h30 pour les films courts, etc. Vous voyez, ça va nous permettre de faire d'une pierre deux coups plus de séances et d'espacer les horaires de séances pour que, voilà, on n'est pas obligé de mettre tout le monde à la même heure. Voilà, on respecte quand même encore une fois, on n'est pas encore tout à fait sorti, hein, de cette pandémie. On respecte.
On va attendre le 30 juin. Encore. Et là, ça sera la troisième étape où là, si tout va bien, hein, si tout va bien, on croise les doigts. Le 30 juin, c'est la fin de toute, c'est 100% de jauge et puis plus de limitations au niveau des horaires. Donc, on devrait pouvoir passer un été serein au cinéma, en tout cas.
Et c'est ça, et c'est surtout que là, de plus en plus, ça monte crescendo. Il y a des films, bien évidemment, les trois premières semaines, notamment un film qu'on distribue, nous, c'est GR, qui s'appelle Demon Slayer, qui bat des records au Japon, aux États-Unis. C'est un truc de fou. Donc, on est très fiers de... Et j'ai pris le risque de le sortir malgré la jauge à 35%, parce que je pars du principe qu'on a assez de séances et on va le garder longtemps. Donc, il y a des films qu'on n'avait pas assez exploités par la refermeture au mois d'octobre, comme Adieu les cons ou 100% loup. Et après, il y a des sorties de films français, il y a même Tom and Jerry, il y a quelques films. Et plus vous avancez, en 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et là, des blockbusters commencent à arriver, et on aura une vraie diversité de programmation. Faut attendre un petit peu, pour que... Ouais, on se remet en jambe, on va dire.
Eh oui, il y aura le Fast and Furious 9, par exemple, et puis il y a plein de films américains qui vont arriver aussi. Parlons des films français. Donc là, mercredi, au cinéma, il y a des films, effectivement, qui ont connu vraiment des petites carrières au cinéma avant leur fermeture. Donc Adieu les cons ressort, 30 jours max, va pouvoir ressortir aussi. On a ADN aussi, le film de Maouen.
ADN, Une vie secrète, La Belle et l'Escargot. Il y a pas mal de films. Hein. En sortie tout court, vous avez aussi Mandibule.
Oui.
Comédie française.
De Quentin Dupieux.
Le dernier voyage, Envole-moi. Il y a plein de films.
Et L'Étreinte, dont on va parler dans un instant, puisqu'on va avoir le plaisir d'accueillir Ludovic Bergery, Vincent Dedienne dans un tout petit instant. Et puis la semaine prochaine, on parlera aussi de Slalom, de Charlène Favier et justement du dernier voyage de Paul W.R. aussi.
Ouais.
Enfin bref, il y a plein de jolis films. On aura l'occasion d'avoir le nouveau film de Michel Larocque aussi tout début juin, dont on parlera aussi. On aura l'occasion de l'inviter.
Super.
On a un beau programme, en tout cas cinéma, qui va vous attendre pendant ce mois et demi, malgré effectivement, ces jauges réduites et ces fermetures anticipées le soir, mais en tout cas, on est là.
Faut positiver, il n'y a plus qu'à.
Exactement.
Il y a l'émotion du grand écran qui attend tout le monde.
Exactement. Merci en tout cas, Jocelyn, d'avoir été avec nous.
Merci
pour nous éclairer un petit peu plus là-dessus. Et puis, on va accueillir l'équipe de L'Étreinte maintenant. Le nouveau film de Ludovic Bergery qui sort mercredi dans les salles. Merci.
Et
beaucoup.
Saluer et encore bravo d'avoir et des distributeurs et toutes les équipes qui ont le courage de sortir des films, malgré
c'est
toutes
sûr.
Ces contraintes.
Exactement.
Voilà. Merci à tout le monde.
Merci beaucoup. À bientôt, Jocelyn.
Au revoir.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, coup de cœur ciné cette semaine consacré au film L'Étreinte de Ludovic Bergery qui est justement notre invité aujourd'hui. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Vincent Dedienne qui est notre invité qui joue Aurélien dans le film. Bonjour,
bonjour
Vincent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bon, j'espère que vous allez bien. L'Étreinte, ça sort dans 2 jours.
Ouais.
C'est toujours un petit pincement quand son film va appartenir au public comme ça, qui nous échappe en quelque sorte, Ludovic.
Ah oui, c'est un gros pincement. C'est oui, c'est-à-dire que tout d'un coup on lâche quelque chose, et donc du coup il y a du vide. Voilà. Mais oui, donc il y a une vraie. Enfin, c'est très excitant, très angoissant aussi. Mais en même temps, c'est la vie des films. Et c'est, voilà.
Alors, je dirais de L'Étreinte que c'est l'histoire d'une reconstruction en quelque sorte. La reconstruction d'Emmanuel Béart, qui perd son mari. Et on va suivre cette reconstruction au travers ce personnage qu'interprète Emmanuel. Depuis quand vous portez ce projet, vous, Ludovic, déjà?
Je crois que je l'ai un peu toujours porté. C'est-à-dire que ce qu'elle traverse, en tout cas, c'est de l'intimité. C'est le deuil, la reconstruction. Le fait de choisir la vie, c'est une chose que j'ai toujours portée. Et après, d'avoir eu envie de l'écrire, ça fait, je sais pas, en 3-4 ans, d'avoir eu envie de le mettre en scène, en tout cas, et de l'exprimer.
Ouais.
Oui, ça doit faire 3-4 ans que j'ai commencé à écrire.
Emmanuel Béart, comment ça s'est imposé, ce choix d'Emmanuel?
Il s'est pas imposé tout de suite, on se connaissait, je lui parlais du projet, on parlait même d'actrice pour le film. Et puis tout à coup, il y a eu comme une évidence qu'il fallait qu'elle l'interprète. Voilà. Et je lui ai proposé, elle a dit oui, voilà. Mais ça s'est imposé un peu insidieusement, voilà. C'est-à-dire que c'était pas tout de suite...
C'était en douceur.
C'était en douceur, du coup c'était arrivé là, son visage était arrivé là, je trouvais que... Voilà, que... Et puis tout à coup, c'est apparu.
Alors, Vincent, tu arrives, Vincent, dans un rôle beaucoup plus dramatique, en quelque sorte, dans un film beaucoup plus dramatique que ce qu'on peut voir habituellement de toi sur scène. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as lu le scénario? Qu'est-ce que tu t'es dit?
Qu'est-ce que je me suis dit quand j'ai lu le scénario? Que j'étais très content qu'on m'envoie ce scénario, qu'on ait de l'imagination, qu'on m'imagine à cet endroit. Et puis j'ai aimé tout de suite ce que j'ai lu. J'ai aimé ce que j'ai lu parce que j'y ai perçu aussi tout ce qui n'était pas écrit. Souvent tout est écrit au cinéma. Et parfois, dans ce scénario, je voyais qu'il allait avoir du silence, il allait avoir autre chose que les mots. Et moi qui ai tendance à parler beaucoup, tout le temps, je me suis dit que ça allait être un changement, un vrai exercice. Donc c'est quasiment un territoire. En plus, comme j'ai pas beaucoup fait de cinéma encore, j'avais vraiment la sensation d'un territoire à explorer, voilà, d'un continent même à découvrir.
Comment tu définirais Aurélien ?
Aurélien, c'est mon personnage. C'est un jeune homme qui est un étudiant qui est en fac d'allemand, qui consomme l'amour, qui consomme les relations, qui consomme le sexe beaucoup, avec une apparente légèreté et une apparente joie, mais qui cache un vide. Voilà, qui remplit quelque chose, qui semble remplir quelque chose qui est finalement béant, enfin qui est peut-être percé. Voilà.
Ludovic, la rencontre entre les deux, l'association de ces deux personnages qui vont se rencontrer dans cette reconstruction, Vincent s'est imposé comment, de quelle façon aussi?
À Vincent, c'était une évidence. Enfin, je savais déjà qu'Emmanuel allait interpréter Margot. Et voilà, et après c'était Vincent, je l'avais vu au théâtre. Et voilà, je décelais quelque chose, j'avais envie de, je décelais une densité, quelque chose, une densité mélancolique, quelque chose qui allait nourrir le personnage, et aussi une douceur et une tendresse incroyable. Et comme une sorte de chevalier servant, comme ça, il va l'accompagner, j'avais vraiment besoin de cette tendresse-là, et aussi de cette mélancolie qui n'est jamais vraiment exprimée, et qui est toujours, caché, qui est là et sans être là, voilà. Et c'est Vincent.
On va y écouter la bande-annonce. Les Trains, ça sort mercredi au cinéma. On écoute.
Die verschiedenste Weise interpretiert, variiert und bis in seinen äußersten Widerspruch hineingetrieben.
Prenez vos études?
Oui.
Tu parles d'une question?
Bah.
Et vous venez à la fête demain soir ou pas?
Quelle fête?
Prenez mon numéro, je passerai vous chercher.
Il a peur de rien. Un peu bandeur.
Et vous avez habité où ça avant d'aménager?
À Nice. C'est mon mari qui était commissaire d'exposition là-bas.
Il est où maintenant?
Il est nulle part. Il est mort.
Ludovic Bergerie et Vincent Dedienne sont nos invités aujourd'hui pour parler de ce film L'Étreinte qui sort mercredi au cinéma. Moi, je voudrais évoquer vos souvenirs maintenant. Est-ce qu'il y a un souvenir devant ou derrière la caméra qui vous a marqué dans ce film à un moment donné?
Il y a eu un moment donné où il y a eu la neige.
Qui n'était pas attendu.
Qui n'était pas attendu, on ne l'attendait pas.
Qui n'était pas dans le scénario, donc.
Et on s'est retrouvé, mais vraiment, enfin, il y a eu une tempête de neige. Et on s'est retrouvé, c'était un moment où on était dans la maison de Margot, donc un peu isolé. Et c'était un sentiment très particulier, parce que tout à coup, toute l'équipe était bloquée dans la maison. Et la caméra, en plus, ne fonctionnait plus parce qu'il faisait trop froid. Donc c'était.
Tant qu'à faire.
Donc il y avait plus de cinéma. Enfin, il y avait le cinéma, il y avait plus de cinéma, il y avait cette espèce de c'était la vie qui tout à coup nous dirigeait. Et c'était un moment, le fait d'être bloqué comme ça avec toute cette équipe qui était à la fois en même temps très joyeux, hein, parce que voilà, et un souvenir particulier. En tout cas,
c'est
voilà.
Ce genre de moment qui laisse des souvenirs, justement. Ça crée des souvenirs.
Oui, mais après c'est aussi la complicité. Enfin, moi, c'est la complicité avec les acteurs. Voilà, c'est tous ces moments aussi avec Vincent, avec Emmanuel, de voir et leur complicité aussi, et d'être spectateur de leur complicité naissante, parce que voilà, et c'est assez formidable. Ouais. Voilà.
Vincent,
d'en être l'initiateur.
Il est comment Ludovic en tant que réalisateur sur un plateau?
Il est
Attention, il y a peut-être un prochain rôle en vue là.
Non, mais j'essaie de trouver vraiment les mots justes. Il est parce que j'ai envie de dire qu'il est délicat,
ouais.
Mais Ce qui est pénible dans l'adjectif délicat, c'est qu'on peut entendre aussi un peu de... C'est un peu galvaudé le mot la délicatesse, mais la délicatesse c'est vraiment un art, c'est vraiment une élégance, c'est précis la délicatesse, parce que c'est une élégance de l'esprit, et c'est aussi un don manuel. C'est-à-dire qu'il est délicat, il a été délicat avec nous physiquement, il nous a enrobé, entouré,
accompagné,
regardé. Moi, il m'a par exemple ralenti. C'est-à-dire qu'il a ralenti, il m'a incité à me ralentir. Quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, parce que j'ai l'habitude de plutôt aller vite.
Au niveau du débit de parole.
Oui, puis même du débit, mais pas que. Et il est très précis et très doux. Il parle à voix basse. Il est discret. Et pourtant, je dis tout ça, mais en même temps, il fait souffler une ambiance très joyeuse sur son plateau. C'est-à-dire que tout le monde était très très content d'aller au travail le matin. Et ça,
c'est ça qui est important.
Ouais, ça c'est très important.
Vincent, ton meilleur souvenir de tournage, c'est ta rencontre avec Emmanuel.
Oui, c'est le premier. En fait, c'est la première lecture à trois. C'est-à-dire, c'est le soir où j'avais rendez-vous chez Ludovic pour dîner. Et c'était un dîner pour qu'on se rencontre, Emmanuel et moi, et on en a profité pour faire des lectures que Ludovic nous a demandé de faire et à diriger. Et en fait, j'ai compris ce soir-là que quelque chose était en train de circuler entre nous trois, quelque chose d'inattendu et de mystérieux. Puisqu'on c'était la première fois qu'on était tous les trois ensemble, et j'ai compris que quelque chose allait se passer. Voilà, donc ça c'est un très très beau souvenir. Et en plus, c'est la première fois que je mangeais de la poutargue.
Ah, découverte.
Donc c'était une découverte aussi, ça, ouais.
Et meilleur souvenir de tournage, du coup, alors, après?
Le meilleur souvenir de tournage, c'est il y a une scène qui se passe au bord de l'eau, au bord de la mer, où je vais chercher le personnage de Margot.
De Margot, oui.
Et ça, c'était une journée un peu compliquée parce que je jouais au théâtre le soir à Sartrouville, et c'était, où est-ce qu'on tournait, en Bretagne? Voilà, Borny.
En
Loire-Atlantique.
Attention, c'est
la frontière de la Bretagne.
Ouais, Loire-Atlantique, Borny, ça rigole pas.
Tout le monde dans mon entourage, que ce soit mon agent, la metteur en scène, Catherine Yegel, du spectacle que je devais jouer. Enfin, on avait décidé que je pourrais pas tourner cette scène-là parce que c'était trop risqué, les trains marchaient pas, je serais jamais à l'heure au théâtre le soir et tout ça. Et sans trop le dire, je l'ai dit juste à Ludovic, j'ai quand même pris le train. Donc j'ai désobéi à tout le monde et je suis venu tourner cette scène. Parce que je sentais que il fallait que je la tourne, et je sentais mon personnage avoir besoin de dire au revoir au personnage d'Emmanuel. Voilà. Donc ça, c'était un souvenir très fort, parce que j'ai eu très très peur dans le train. Je me suis dit, peut-être que je suis en train de foutre le bazar auprès de tout le monde. Mais voilà, c'était une sorte d'adieu, comme ça, de mon personnage. C'était important.
Oui, c'est vrai qu'on s'était retrouvés, en fait, la veille. On se l'était dit tous les deux. En fait, on s'est retrouvés dans un café. On s'est dit, bah, tu vas venir en secret demain. C'était merveilleux de la part de Vincent, voilà, de proposer ça et de prendre ce risque-là, en tout cas. Voilà.
Mais en tout cas, le film L'Étreinte, ça sort mercredi au cinéma. Vincent De Dienne, Emmanuel Béart au casting notamment, mais plein d'autres aussi, que vous pourrez découvrir dans ce très beau film. Merci Ludovic, merci Vincent d'être venu nous voir.
Merci Alain. Merci.
Et à bientôt.
Merci Alain, au revoir.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, c'est pas un coup de cœur ciné, ça sera deux, puisque nous aurons le plaisir de recevoir, justement le réalisateur du dernier voyage de Paul WR, accompagné de Hugo Becker, notamment l'équipe du film, sera donc avec nous. Nous aurons le plaisir de recevoir l'équipe du film Slalom, également avec Charlène Favier, sa réalisatrice, et Noé Habitat, l'héroïne, qui sera donc notre invitée. Nous aurons également Valérie Brochard en ligne avec nous pour nous parler d'un programme sur LCP. Nous aurons Annelise M également pour nous parler de la saison finale de Nina. Bref, vous l'avez compris, et puis on lancera l'appel pour votre plus beau marché dans le Limousin. On va pas s'ennuyer, je vous le dis.
Enfin du neuf à la radio.
Vous écoutez Fréquence Magique.
Allez, n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé, c'est également toute la semaine avec La Quotidienne à 7h30, 12h30 et 17h30 sur Fréquence Magique. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rien de plus simple, rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chute, on écoute la télé. Et vous pouvez télécharger dès maintenant notre application pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous retrouve également lundi prochain à 18h pour la Grande Hebdo. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Fréquence Magique.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Chut, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.